Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série intitulée « Le pouvoir de la croix ». Le pouvoir de la croix. Et aujourd'hui, nous commençons donc par l'étude numéro 1. Nous pourrons appeler cette étude l'acceptation. L'acceptation. Chers amis, il y a deux questions que tout croyant doit régler aussi vite que possible. La première, c'est Dieu m'accepte-t-il pleinement ? M'accepte-t-il tel que je suis ? Le deuxième, si oui, sur quelle base le fait-il ? Tout cela, c'est donc très important. Si souvent, la vie du croyant, qu'il soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, sauvé ou non encore sauvé, et imprégné d'un désarroi lancinant parce qu'il n'est pas sûr d'avoir été accepté, et cela aussi au niveau humain. Cependant, beaucoup de croyants, qu'ils s'agissent de fonceurs ou de mous, passent leur vie sans cette certitude précieuse sur laquelle ils pourraient pourtant s'appuyer et bâtir. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, est-il dit, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Notez bien les indications bibliques que je vous donne pour que vous puissiez vérifier. Donc, tout croyant dont la foi repose en Jésus-Christ est accepté par le Père. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 1. Il s'agit là de la paix que Dieu donne par son Fils bien-aimé. C'est là le fondement de notre paix. Dieu peut établir la paix entre lui-même et nous, tout cela par notre Seigneur Jésus-Christ ayant fait la paix par lui, c'est-à-dire par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. N'oublions jamais que sa paix est fondée uniquement sur l'œuvre accomplie à la croix, tout à fait indépendamment de ce qui est en nous ou de ce qui vient de nous, puisque Jésus-Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Notez Romains chapitre 5, verset 8. Dès que notre foi repose sur ce fondement-là, elle devient une position inébranlable. Il peut alors nous arriver d'être comme Jésus, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux aux yeux de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Voyez-vous, la plupart des croyants ont aujourd'hui besoin de ce ferme appui. Le Dieu de bénédiction ne change jamais. Il ne change jamais en ce qui concerne notre conception et notre acceptation sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais hélas, nous nous écartons de l'attitude qui est continuellement celle de Dieu à notre égard, selon Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Beaucoup de personnes supposent que vu qu'ils sont conscients de péchés commis, ils doivent renouveler leur acceptation auprès de Dieu tous les jours. Mais la vérité, c'est que Dieu ne change pas, contrairement à nous. Son regard repose sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour le croyant que nous sommes. Quand vous ne marchez pas selon l'Esprit Saint, vous marchez tout simplement selon la chair. Vous agissez selon le vieil homme, c'est-à-dire la vieille nature qui a été crucifiée pourtant avec Christ à la croix. Romains chapitre 6, verset 6. Il vous faut donc être réintégré dans la communion avec Dieu. Et alors, vous trouvez que rien n'a changé, que votre acceptation par Dieu est un fait absolument immuable. Voyez-vous, quand le péché est entré dans votre vie, vous craignez que Dieu n'ait changé. Mais pourtant, eh oui, il n'a pas changé d'un iota, mais c'est vous qui avez changé. Vous ne marchez pas selon l'Esprit Saint, mais vous marchez selon la chair. Vous avez à vous juger donc vous-même pour être réintégré. Ceci est mon sang, est-il écrit, c'est le sang de l'alliance qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Saint Matthieu chapitre 26, verset 28. Or, si cela n'enlève pas mon péché, de quel côté puis-je me tourner? Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus nécessité d'offrande pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 18. Dieu a donc effectué la réconciliation totale et jamais il n'en reviendra. Le malheur, c'est que nous nous en écartons en supposant que Dieu, toujours fidèle, avait changé. Il aurait peut-être changé à notre égard, va savoir. Alors certainement qu'il jugera la chair, c'est une nécessité. Dieu trois fois saint ne peut pas simplement fermer les yeux sur nos manquements. Si nous ne le faisons pas, mais jamais, jamais il ne reniera l'amour, cet amour véritable qu'il a manifesté à l'égard du Fils prodigue. Aussitôt que le nuage qui nous entourait à cause de notre marche selon la chair, sitôt que cela se dissipe, nous constatons que son amour est resté absolument inchangé. Que son nom en soit donc béni. Alléluia. La seule base sur laquelle Dieu nous accepte doit être aussi la nôtre. Il nous a accordé sa grâce en son bien-aimé Fils, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Notre Père, est pleinement satisfait de son Fils bien-aimé en ce qui nous concerne, et nous n'avons aucune raison de ne pas l'être. Donc, notre satisfaction ne peut avoir son origine et sa sécurité que dans la satisfaction divine. Et elle nous vient de Dieu. Elle ne va pas de nous à Dieu. Ich en Darby s'exprime très clairement dans ces choses-là. Il a dit « Quand le Saint-Esprit raisonne avec l'homme, son raisonnement ne tient pas compte de ce que l'homme est pour Dieu, mais de ce que Dieu est pour l'homme. L'homme raisonne en partant de ce qu'il y a en lui-même quand il veut savoir si Dieu peut vraiment l'accepter tel qu'il est. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu l'accepte. L'homme s'imagine que s'il trouve en lui-même suffisamment de droiture ou de vertu, Dieu pourrait peut-être l'accepter. Mais il ne trouvera pas la paix en raisonnant de cette manière-là. Le raisonnement du Saint-Esprit part de ce que Dieu est, ce qui provoque un changement total en moi-même. Non seulement j'ai en horreur mes péchés, mais je suis totalement déçu de moi-même. Cela correspond donc au raisonnement du Saint-Esprit qui nous montre ce que nous sommes en réalité. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit paraît souvent dur, ne laissant aucun répit à notre âme jusqu'à ce que nous soyons compris, que nous ayons surtout enfin compris, et cela tout au fond de nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Alors seulement là, nous pourrons être soulagés. Il ne nous donnera pas la paix avant que nous en soyons arrivés là. En fait, il ne le peut pas, car la blessure ne guérirait que superficiellement. Nous devons donc en arriver au point où il nous reste comme unique soutien que la seule bonté de Dieu, et alors, si Dieu est pour nous, rappelez-vous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Toutes les religions occultes et les religions qui sont de l'Inde, qui sont de l'Orient, ce sont des religions qui vous induisent en erreur. Par contre, la Sainte Bible, elle est la vérité unique et absolue. Il est donc triste de constater que de nos jours, les croyants raisonnent exactement inversement. Ils partent toujours d'eux-mêmes pour enfin arriver à Dieu. Et c'est quand tout va bien et que Dieu semble les bénir beaucoup qu'ils ont l'impression que Dieu les aime peut-être et qu'il les accepte. Mais qu'ils trébuchent, et ça peut arriver plus souvent, et là, tout semble être aride et dur. Et ils ont donc l'impression que Dieu ne les aime plus ni ne les accepte. Mais voyons cela de plus près, chers amis. Non seulement il n'y a rien en nous-mêmes qui puisse nous rendre acceptables à Dieu, vu que notre acceptation repose uniquement sur Jésus-Christ. Mais pratiquement tout notre développement spirituel, il est dû au temps de sécheresse et de difficultés à surmonter. Dieu merci, il nous a acceptés en son Fils et par son Fils. Et c'est sur ce fait-là que notre foi doit donc reposer. Tout comme notre justification, nous acceptons notre acceptation auprès de Dieu, car elle est due à la seule grâce. N'oublions jamais cela. Comme il y en a en la créature absolument rien, il n'y a rien qui saurait prétendre à la grâce de Dieu. Il lui faut donc en arriver à abandonner l'idée que ses efforts, nos efforts, amèneraient Dieu à lui faire grâce, à nous faire grâce. Le croyant a été accepté en Jésus-Christ, qui est, lui, son lieu de référence. Il n'a pas été accepté à l'essai d'une semaine ou d'un mois. Quant à sa vie passée, elle n'existe plus du tout devant Dieu, car il est mort à la croix, et Jésus-Christ est maintenant sa vie. La grâce, une fois accordée, elle n'est pas retirée, car Dieu connaît, il connaît toutes les exigences humaines à l'avance, et son action n'en dépend nullement. L'attitude qui convient à l'homme sous la grâce peut se résumer à peu près ainsi. Écoutez bien. Croire et consentir à être aimé, tout en se sachant indigne, eh bien c'est aussi mon cas, évidemment. Eh bien croyez-moi, c'est là le grand secret. Je répète. Croire et de consentir à être aimé, tout en se sachant totalement indigne, ce qui est aussi mon cas, eh bien c'est là le grand secret. Se refuser à prendre des résolutions ou à faire des vœux, ce serait mettre sa confiance dans la chair, s'attendre à être béni, alors qu'on est de plus en plus conscient d'en être totalement indigne. En venir à considérer la correction disciplinaire de Dieu comme étant un moyen d'éducation et une marque de sa bonté. Qu'implique donc vivre par la grâce? Qu'est-ce que cela implique? Implique de vivre uniquement par la grâce. Eh bien, écoutez bien, celui qui espère devenir meilleur pour être plus acceptable, il ne se voit plus en Jésus-Christ seulement. Être déçu de soi-même, et j'ai été souvent déçu et attristé sur moi-même, cela, nous ne devons pas nous décourager par cela, jamais. Car voyez-vous, le découragement provient d'un manque de foi en ce qui concerne l'intention de Dieu et de son plan de bénédiction. L'orgueil, c'est vraiment un aveuglement. Voyez-vous, par nous-mêmes, nous n'avons droit à aucune position privilégiée devant Dieu. Il découle donc de ces considérations que l'absence de bénédiction divine provient d'un manque de foi et non pas d'un manque de piété. Voyez-vous, prêcher la piété avant la bénédiction, cela revient à renverser l'ordre de Dieu. C'est prêcher la loi et non pas la grâce. La loi faisait dépendre les bénédictions de la ferveur, de la piété. Or la grâce, elle par contre, confère des bénédictions inconditionnelles. Avez-vous entendu? Elle confère des bénédictions inconditionnelles. Pourquoi? Parce que nullement méritée. La vie consacrée ne suivra que par la suite, mais pas toujours à la mesure des bénédictions reçues. Avons-nous craint de croire Dieu sur parole? Certains auraient-ils même craint de laisser d'autres mettre Dieu à l'épreuve? Gardons-nous d'oublier que les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes. Certains ne seront poussés à l'action que par le danger. Et un bon nombre de religions et de systèmes psychologiques dépendent de la peur pour maintenir leurs disciples au pas. Or la crainte a trouvé une place aussi, hélas, dans le christianisme. Mais Dieu dispose de motivations plus élevées et beaucoup plus efficaces que la crainte. L'une d'elles, c'est l'amour. Voyez-vous, l'amour de Dieu est accompagné de la crainte de l'offenser. Donc, promettre à quelqu'un la certitude de sa destinée, cela peut donner l'impression au niveau humain qu'on joue un peu avec le feu. Mais ce n'est pas tenir compte de Dieu, car ceux qui ont la compréhension la plus profonde de la grâce ne continuent pas à pratiquer le péché. En outre, la crainte, elle produit l'obéissance d'esclaves, alors que l'amour, cela engendre l'obéissance de fils et de filles de Jésus-Christ. Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? À moins, évidemment, que le chrétien bibliquement fondé ne soit absolument pas certain de sa position en Jésus-Christ, alors il manquera de fermeté. Tenez donc ferme, est-il écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Du reste, l'apôtre Paul nous dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes, et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console ainsi vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre, en toute parole qui soit bonne. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15 à 17. Chers amis, qu'il est merveilleux et encourageant de savoir que notre Père Céleste s'est exprimé si clairement dans sa sainte parole quant au but qu'il a en vue pour chacun de nous. Et donc c'est en ce moment même, en poursuivant cette écoute, qu'il vous faut acquérir la certitude du but que Dieu se propose pour vous, et ceci sur l'autorité de sa sainte parole éternelle. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Genèse chapitre 1, verset 26. Le premier Adam, qui est la souche de la race humaine, ce premier Adam a été créé à l'image de Dieu sur le plan de la personnalité, de l'intelligence, des sentiments, de la volonté, et ainsi de suite, afin qu'il puisse y avoir communion, amitié et partage entre les hommes. Dieu restant le souverain, et l'homme, il est le sujet, et se soumettant, c'est à nous de nous soumettre, à la volonté de Dieu, ce qui est la liberté absolument parfaite. Mais voilà, nous savons que Adam a choisi sa propre voie, de préférence à celle de Dieu. Adam ne voulait pas compter sur Dieu, mais que sur lui-même. Il voulait s'aimer lui-même, devenant ainsi du même coup égocentrique, au lieu d'être centré uniquement sur Dieu le Père. Et étant mort à l'égard de Dieu, qui est la source de toute vie, mort par le péché de sa désobéissance. Donc, c'est dans cet état que Adam a engendré un fils à sa ressemblance, c'est-à-dire selon son image, donc, une image déchue, selon la Genèse chapitre 5, verset 3. Ainsi Adam a donné naissance à une race pécheresse, une race impie et égocentrique, morte par ses fautes et par ses péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour, qui sont les derniers, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, littéralement l'empreinte de sa substance. Notez Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3. Voici donc l'image de Dieu à nouveau sur la terre, mais cette fois-ci en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Donc, notre naissance naturelle a fait de nous des membres de la race déchue et pécheresse du premier Adam. Notre passage de la vieille race pécheresse à la nouvelle race sainte, elle est donc connue sous le nom de nouvelle naissance. En naissant de nouveau par la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, selon Actes chapitre 20, verset 21, alors nous naissons en Jésus-Christ, qui lui devient donc notre vie maintenant. Tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, tu as été greffé sur l'olivier franc. Romains chapitre 11, verset 24. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, rappelez-vous Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et beaucoup seront donc rendus justes par Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 19. Donc notre Père céleste continue à poursuivre son but, c'est de créer l'homme à son image. Bien que son but initial soit le même, Dieu ne le réalise pas par le moyen de l'homme originel. Tout est maintenant concentré dans le dernier Adam, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Étant nés en lui par la foi, nous sommes devenus participants de la nature divine, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Dans la mesure où vous permettez au Seigneur Jésus de s'exprimer par votre personnalité, ce pauvre monde malade du péché peut voir Jésus-Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, l'apôtre Paul nous donne cette promesse très encourageante où il dit: de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire Adam, nous porterons aussi maintenant l'image du céleste, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de tous ceux qui aiment Dieu, oui, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. C'est donc là le bien que Dieu tire de toutes ces choses. Son but initial, c'est de nous créer à son image, qui trouve son expression parfaite en son Fils Jésus-Christ, qui lui est notre vie. Et voici donc l'objet que l'apôtre Paul avait en vue pour chacun de ses convertis. Il a dit dans Galates chapitre 4, verset 19: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. Ce n'est donc un secret pour personne qu'une saine croissance spirituelle sera liée à la connaissance et à la mise en pratique de ce qui est dit dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Une fois que nous aurons compris que toute chose concourt à nous rendre de plus en plus semblable au Seigneur Jésus, nous ne serons plus frustrés ou ébranlés si certaines de ces choses sont dures, sont difficiles à comprendre et contiennent souvent un élément de mort. Il nous sera donc alors possible de nous reposer en Jésus-Christ et de dire à notre Père: oui, que ta volonté seule soit faite, et notre attitude sera toujours celle de la foi confiante, même s'il voulait me tuer. Oh oui, c'est le célèbre Job qui a dit cela au chapitre 13, verset 15. Il a dit, rappelez-vous, même si Yahvé l'Éternel voulait me tuer, eh bien, je m'attendrai toujours à lui. C'est la preuve que nous sommes entrés dans la maturité spirituelle. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, et cela de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est une chose que de connaître le plan de Dieu pour notre vie, et c'en est une autre que d'entrevoir le comment qui nous permet d'y entrer sans tarder. Voyez-vous, l'un des moyens divins les plus efficaces, c'est évidemment l'échec. Beaucoup de croyants perdent la tête quand ils subissent un échec, et ils feront n'importe quoi pour le cacher, pour même l'ignorer, ou l'expliquer d'une façon rationnelle. Mais, en ce faisant, ils résistent tout simplement à l'instrument principal que le Père Céleste utilise pour nous rendre conformes à l'image de son Fils bien-aimé. L'échec qui nous touche personnellement et dans notre vie, dans notre service chrétien aussi, eh bien Dieu le permet et souvent il le met en œuvre lui-même afin de nous détourner complètement de nous-mêmes vers la source véritable de notre vie, qui est Jésus-Christ, qui ne nous fait jamais défaut. Il faudrait donc apprendre à nous réjouir quand nous nous sentons dépourvus et quand notre cœur est affamé, car Dieu dit dans Saint Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Saint Matthieu chapitre 5, verset 6. Si dans notre dénuement pitoyable, nous gardons les yeux fixés avec amour sur le Seigneur Jésus, tel que la parole nous le révèle, eh bien le Saint-Esprit transférera discrètement et facilement le centre de la source de notre vie, du moi, au Christ. Et dès lors, ce ne sera plus moi qui vis, oh non, 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 mais ce sera Jésus-Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Donc, chers amis, Dieu a créé une loi naturelle selon laquelle nous sommes rendus conformes à notre centre d'intérêt et d'amour. Rappelez-vous aussi ce qui est arrivé en Allemagne au temps de Hitler, quand le pays pollué de beaucoup de petits Hitler à la suite d'un dévouement fanatique pour un médiocre colleur d'affiche. Ici en Amérique et ici en Europe, la radio, la télévision et le cinéma poussent la génération montante à imiter leurs idoles du monde du spectacle, tels que Johnny. Et que dire du chrétien ? Si nous sommes attirés par notre monde mauvais, nous devenons de plus en plus mondains. Si nous choyons notre moi en vivant pour nous-mêmes uniquement, nous devenons de plus en plus égocentriques. Par contre, si nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, nous devenons de plus en plus comme lui. Si je veux ressembler à Jésus, c'est bien Dieu le Père qui doit opérer cela par sa grâce en nous. Et plus tôt je m'en rends compte, plus tôt je serai délivré de l'esclavage de mes propres efforts. Rejette donc tes tentatives laborieuses. Et dis-toi, bien que tu n'y arriveras pas, car plus tu vas essayer, plus tu t'éloigneras de sa ressemblance. Alors que faire ? Qu'allons-nous faire ? Eh bien, le Saint-Esprit nous dit, tu ne pourras jamais faire cela, laisse donc tomber. Tu as été dans l'arène, tu t'es démené, et maintenant, voici l'échec. Alors, simplement, sors de là, assieds-toi, et regarde uniquement à Jésus-Christ. Oui, regarde-le tranquillement. Ne cherche pas à être totalement comme lui, mais regarde-le simplement. Que ta pensée entière soit absorbée par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Oublie ta préoccupation de lui ressembler, mais à la place, laisse-le remplir ton cœur, ton esprit et ton âme. Contemple-le par la Sainte Parole. Approche-toi de la Sainte Bible dans le seul but de rencontrer le Seigneur. Au lieu de remplir la tête, ta tête, de toutes sortes de faits ayant trait à la Sainte Parole, eh bien, dis-la dans le but de rencontrer le Seigneur. Fais de la Sainte Bible un moyen, non pas d'érudition biblique, en ayant des connaissances plein la tête, mais de communion avec Jésus-Christ. Contemple donc le Seigneur, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens chapitre 2, verset 13. Et pour terminer notre étude, et quel est ce dessein bienveillant que Dieu opère en nous? Eh bien, tout tend vers ce seul but qui est afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste aussi dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, verset 11. Et voici la vie, pour moi, est-il dit, Jésus-Christ, il est lui ma vie. Philippiens chapitre 1, verset 21. Et voici également le service. Il y avait là quelques Grecs. Ils s'approchèrent de Philippe et lui ont demandé, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Saint Jean, chapitre 12, versets 20 et 21. Amen. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose d'important pour votre édification personnelle, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien. La Bible dit dans Saint Luc chapitre 17 verset 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Revenez donc à Dieu de tout votre cœur. Laissez là ce misérable monde et votre âme trouvera le repos. Apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieurs, et vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Car le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Cela n'est pas donné aux impies. Jésus-Christ viendra à vous, et il vous remplira de ses consolations si vous lui préparez au-dedans de vous une demeure qui sera digne de lui. Toute sa gloire et toute sa beauté est intérieure, et c'est dans le secret du cœur qu'il se plaît. Âme fidèle, hâtez-vous donc de préparer votre cœur pour l'époux, afin qu'il daigne venir et habiter en vous. Car il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Laissez donc entrer Jésus-Christ en vous, et n'y laissez entrer que lui. Lorsque vous posséderez Jésus-Christ, vous serez riche, et lui seul vous suffira. Il veillera sur vous, il prendra de vous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que vous n'aurez plus besoin de rien attendre des hommes. Mais Jésus-Christ demeure éternellement, inébranlablement, dans sa constance. Il est près de vous jusqu'à la fin. Ceux qui sont aujourd'hui pour vous pourront demain être contre vous, et réciproquement, car les hommes changent comme le vent. Mettez donc en Dieu toute votre confiance, qu'il soit votre crainte et votre amour, et il répondra pour vous, et il fera ce qui est le meilleur pour vous. Vous n'aurez point de demeure stable en quelque lieu que vous soyez, car vous êtes étrangers et voyageurs, et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez unis intimement à Jésus-Christ. Que cherchez-vous autour de vous? Ce n'est pas ici le lieu de votre repos. Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder toutes les choses de la terre que comme en passant, car tout passe, et vous passerez avec tout le reste. Prenez donc garde de vous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en devenir l'esclave et de vous perdre. Que sans cesse votre pensée monte vers le Très-Haut et votre prière vers Jésus-Christ. Si vous ne savez pas encore vous élever aux contemplations célestes, alors reposez-vous dans la passion du Sauveur et aimez à demeurer dans ses plaies sacrées. Car si vous vous réfugiez avec amour dans ses plaies et ses précieux stigmates, eh bien vous sentirez une grande force au temps de la tribulation, et vous inquiéterez peu du mépris des hommes, et vous supporterez aisément les paroles médisantes. Voyez-vous, Jésus-Christ a été aussi méprisé des hommes en ce monde, et dans les plus extrêmes angoisses, il a été abandonné des siens, de ses amis, de ses proches, au milieu des opprobres. Jésus-Christ a souffert et il a été méprisé. Et vous osez vous plaindre de quelque chose? Jésus-Christ a eu des ennemis et des détracteurs, et vous ne voudriez avoir que des amis et des bienfaiteurs? Faites donc uniquement confiance à Jésus-Christ, et il ne vous décevra jamais. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Et peut-être le Seigneur veut encore vous dire quelque chose par cette prière. Voyons cela ensemble. Le Seigneur nous dit: mon peuple soit attentif, car ma nation prête l'oreille, car la loi, elle sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, car Dieu qui a dit « la lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il la voit sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre. Oui, une lumière resplendissante. Oui, il va vraiment venir, le désiré de la terre, l'envoyé divin, celui dont la parole délie à travers villes et villages, contrées, pays et empires. Il va marcher devant nous, vêtu de lumière. Alors des hommes hardis, aux bras vigoureux, vont tressaillir au contact de sa force mystérieuse, et des cœurs de femmes délicats et tendres vont le suivre avec joie dans son pèlerinage. Et le corps mortellement engourdi de son Église, pour laquelle il s'est si amèrement attristé, va enfin refleurir et se réveiller de son obscur tombeau, réchauffé par le souffle créateur de sa bouche. Amen. Chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Oh oui, il vous aime intensément. Vraiment, il vous aime de tout son cœur. Et il est donc de mon devoir, évidemment, de vous aimer également de tout mon cœur. Aussi maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon amour et je vous dis soyez bénis. Et maintenant, j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. C'est encore Mahalia Jackson, qui était une star dans son sens. On n'a pas le droit de dire ce mot-là, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel qui faisait partie des églises baptistes des États-Unis. Essayons de voir si ça fonctionne, car c'est en 1954 que j'ai enregistré cela. Et évidemment, la qualité du son n'est plus la même, vous le comprendrez bien, mais essayons tout de même. Que le Seigneur vous bénisse donc tous, y compris par ces chants. My God, I'm a prayer. Tend a slender columbine and trim the morning glory vine. Flowers of faith that help design my garden of prayer. Oh,
Through, oh God. the blessing of the Lord. There's a joyful feeling inside of your soul when you look up at the heavens. As David said, the heaven declares the glory of God. And so many times we are not thankful for God's blessing. But let us take just a moment to realize how good God is to us, and how merciful He is to us, and how He's called our golden moments to roll on. Should it be?